Bonjour, bienvenue dans Estivalitude, Estivalitude que l'on pourrait traduire par Summerity en anglais, Sommerheit en allemand, Veranida en espagnol, Chatan en chinois ou Natsu en japonais. Oui, l'émission s'internationalise, je vous explique. Estivalitude, en tout cas, c'est la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci,
c'est ouvert à tout le monde.
Tout le monde.
Tout le monde.
Ouais, tout le monde y sera.
Formidable.
Sophia Azedine, vous êtes romancière et vous nous offrez aujourd'hui la réécriture de votre premier roman hautement rock'n'roll, Confidence à Allah. Bonjour Sophia Azedine.
Bonjour, et je m'appelle Safia.
Je vous ai appelé Sophia, ça oui. Commence très mal. Alors que j'ai écrit Safia, je
et
vous connais
depuis des
années.
Et c'est moi qui n'ai pas dormi
années.
De la nuit.
Et c'est... Oui, bah moi non plus. Jean Humbert, vous êtes chef de cuisine et vous avez décidé de mitonner des petits plats pour les artistes du festival rock Lollapalooza. Lollapalooza.
Oui, mais moi non plus, j'y arrive pas, vous inquiétez pas.
Lollapalooza.
Lollapalooza.
Bonjour Jean Humbert.
Bonjour.
Oui, ce matin, Jean Humbert cuisine pour les rockers, tandis que Safia Azedine fait rocker le Maghreb. Magnéto Juliette.
France Inter, Estivalitude.
Qu'est-ce que ça veut dire ça encore ?
Christophe Bourseiller.
Jean Humbert, vous aviez déjà rencontré Safia Azedine ?
Non, jamais.
Jamais ? Ah oui, vous avez, c'est dommage.
Au,
parce
au café ce matin.
Non, dans l'un de vos restaurants. Vous n'êtes jamais allé dans l'un des restaurants de Jean Humbert, Safia?
Je suis allée, mais il n'était pas là.
Oh, bah, dis donc,
ah bah voilà, écoutez, voilà. Alors, aussi. Vous tenez mal vos boutiques si vous n'êtes pas
non,
là quand Safia.
Non, j'étais discrètement en cuisine, en train de cuisiner, tout simplement.
Voilà, c'est ce qu'on m'a dit.
Heureusement qu'il était là en même temps, hein. On préfère qu'il soit au fourneau plutôt qu'à l'accueil. Safia Azedine, quoique, les deux, c'est bien. Safia Azedine, vous êtes gastronome?
Non, pas spécialement.
Ah non, vous n'avez pas vos petits plats favoris ?
Si, les petits plats de ma maman et de mon papa, le fameux couscous du papa. Mais sinon, la nourriture... Évidemment, j'aime manger les bonnes choses, mais ça n'a jamais été très, très important pour moi. Je passais 3 heures devant un plat quand j'étais petite, j'ai toujours très peu mangé. Mais par contre, j'aime bien, bien manger. C'est important pour moi, par contre.
Donc, vous allez dans les bons restaurants, vous allez dans les restaurants de Jean Humbert ou d'autres.
Je mange très simplement à la maison. Et puis, si je sors, je fais un bon restaurant, mais une fois de temps en temps.
Et vous connaissiez le travail de Jean Humbert, ses nombreuses activités?
Oui. C'est vrai qu'à un moment donné, on entendait beaucoup parler. Et puis, moi, ça ne me dérange pas de trop entendre parler de quelqu'un du moment qu'il y a quelque chose derrière. Et je suis allée dans un de ses restaurants à la Cajou. Et j'ai compris pourquoi on en parlait autant.
C'est gentil, merci.
Voilà. Alors, Safia Azedine, elle est quand même un peu curieuse, votre démarche. Moi, je me souviens d'un roman dont on a beaucoup parlé quand il est sorti en 2008, qui s'appelait Confidence à Allah. Et puis, voilà-t-il pas, qu'en 2019, vous le réécrivez. Pourquoi réécrire un livre qu'on a déjà sorti?
Parce que ça m'était nécessaire. Le premier, donc Confidence à Allah, traînait sur ma table de nuit. Je l'ai relu en septembre dernier, comme ça.
Ouais.
Et puis, je vous avoue que...
Ça vous a pas plu?
Non, c'est pas que ça m'a pas plu. J'aime toujours mon héroïne, j'aime toujours le livre. Mais je pense que 10 ans après, on est un petit peu quelqu'un d'autre. Les grandes bases sont les mêmes. Mais je peux pas vous dire pourquoi. C'était une démarche qui m'était nécessaire. J'en ai parlé à mon éditeur en disant j'ai besoin de le réécrire. Donc j'ai tout arrêté, tous mes autres projets. Et j'ai réécrit mon livre. Je pense qu'il y a des... Je sais pas, j'ai survolé des passages. J'ai voulu un peu plus creuser mon héroïne. Et je lui ai dit, je ne sais pas si ça se fait ou pas, mais en tout cas, j'ai besoin de le faire. Et il m'a dit, ok, si vous avez besoin de le faire, et je suis heureuse aujourd'hui qu'il existe comme ça. Je préfère la nouvelle version. Vraiment, c'était une nécessité pour moi.
Jean Humbert, quand on est chef de cuisine, on n'arrête pas de se remettre en question comme fait Safia.
C'est ce que je me disais quand j'écoutais ça.
Ouais. Parce que vous avez ouvert, fermé des restaurants, créé des restaurants nouveaux, vous êtes
Mais c'est un peu la même démarche que j'ai eue quand j'entends que vous avez réécrit votre livre 10 ans après. Moi, la Cajou où vous êtes allé manger, je l'ai réouvert là il y a quelques mois pour ouvrir un restaurant avec ma grand-mère.
Mamie.
Et bon, c'était 15 ans après, l'avoir ouvert. Bon, j'étais très jeune, j'avais 22 ans quand je l'ai ouvert, mais c'est vrai qu'il y a souvent de la remise en question dans la restauration, elle est quasiment 2 fois par jour parce que finalement on est au service le midi, on est au service le soir, il y a une remise en question perpétuelle vu que c'est très éphémère.
C'est comme la radio, vous savez, on est bon le lundi, mauvais le mardi, bon le mercredi, c'est pareil dans le restaurant.
Bah, on essaie d'être bon tous les jours.
Donc. Bah, moi aussi c'est pareil, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors votre livre Safia Azedine, c'est quand même assez particulier parce que ce personnage est extraordinaire, mais c'est un peu Zazie dans le Maghreb. C'est une espèce de femme, de fille, de nana, une nana transgressive, c'est ça?
Elle n'est pas transgressive, pour moi elle est très moderne parce qu'en fait elle dit merci à Allah plutôt que pardon. alors que on peut dire que c'est une fille du péché. Elle vient de la misère noire, elle se prostitue pour des yaourts et puis après elle va à la grande ville et ça devient son métier. Et comme les hommes, quand je parle les hommes, hommes et femmes, hein, la société ne lui tend pas la main, elle décide de faire d'Allah son confident et son ami. Et ça, c'est très rock de dire merci à Allah plutôt que pardon. Donc elle n'est pas transgressive, elle est très moderne et très courageuse.
Elle est moderne et courageuse. Alors j'aimerais bien qu'on écoute la bande-annonce du spectacle qui avait été tiré de votre livre, je crois que c'était en 2008, avec Alice Bedaïdi. C'était à Avignon.
Je m'appelle Jbara. Je suis pauvre et j'habite dans le trou du cul du monde. Je vais pas mettre de la poésie là où il y en a pas, je vous dis que je suis pauvre. On n'est pas très éduqué dans mon bled, d'ailleurs on ne m'a jamais éduqué. On m'a juste gueulé dessus, bousculé et interdit des choses. Tu, nom déshonorant, espèce de traîne, tu ne peux plus rester ici, va-t'en immédiatement, petite pute. Je ne suis pas trop conne et en plus j'apprends vite. Je suis devenue assez populaire, montée casino. Je fais même la bise au physio à l'entrée. Ça, c'est de la promotion sociale. Est-ce que tu peux vraiment m'en vouloir d'avoir préféré un toit à la rue, un peu de chaleur au froid et un lit au trottoir? Oui, j'ai vendu mon corps, mais je serais devenue quoi si je ne m'étais pas prostituée? En fait, ce que je veux te dire là, c'est... Est-ce qu'on peut échapper à son destin?
La façon que vous avez de tutoyer Allah dans la pièce qu'on vient d'entendre, donc bien sûr, et puis dans votre livre Confidence à Allah, est-ce que c'est pas reçu par certains comme très blasphématoire?
Non, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais eu de problème avec on va dire les islamistes, même si ça veut tout et rien dire aujourd'hui, ou avec n'importe quel média. On n'aime pas trop, en tout cas au Maroc, qu'on égratigne l'image du père, mais à aucun moment j'égratigne l'image de Dieu. En plus, moi, ça m'intéresse pas de blasphémer. J'essaye d'élever le débat. Je pense qu'il est plus intéressant de parler aux hommes. Encore une fois, quand je dis aux hommes, c'est à la société, plutôt que de faire quelque chose qui est assez facile et dont tout le monde, se fout un peu, c'est égratigner Dieu qui est pas là pour nous répondre.
Absolument. Vous terminez votre livre par Allah, tu n'es que nuance, et c'est pour ça que je t'aime.
Ben oui.
Hein, c'est quand même assez fort. Après que votre personnage soit prostitué, après qu'elle ait fait les 400 coups à un degré, on ne peut pas imaginer.
C'est un livre qui parle de misère et pas tant de foi. En tout cas, ça ne parle pas de religion, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Par contre, ça parle de foi et la foi est universelle. Et donc, c'est pour ça. Elle pourrait être à Paris, cette fille. Vous voyez, la misère, elle a le même goût partout. Donc, et il n'y a aucun blasphème dans mon livre. Et encore une fois, comme je vous dis, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai une religion que j'aime bien. Je la pratique à ma manière et j'ai aucun problème avec Allah.
Vous dites, il serait temps que les femmes mettent un pied dans les textes sacrés. Vous l'avez dit.
Oui. Bah, je l'ai dit comme beaucoup. Déjà, il serait temps que les femmes se rendent compte qu'elles ont de l'or dans les mains. Parce que c'est elles qui éduquent les fils. Et si elles éduquent leurs fils comme leur fille, déjà, on aura réglé la moitié du problème. Donc, elles se rendent pas compte du pouvoir qu'elles ont. Et après, bien sûr, j'ai l'impression que le monde arabo-musulman respire avec un seul poumon et qu'il est temps qu'il respire avec deux poumons et que les femmes, bien sûr, interviennent dans les textes sacrés, dans les interprétations. Et enfin, c'est normal.
Mais dans votre écriture, vous savez, Jean Humbert, il faut que vous lisiez Safia Azzedine, je vous recommande son livre. Il y a un côté Émile Ajar, c'est-à-dire elle se met dans un langage comme ça, très parlé, très drôle, très truculent. C'est pas autobiographique.
Bah non, écoutez.
Ah bah j'en sais rien, moi, écoutez, dites-moi tout.
Non, mais
c'est
moi,
le moment.
Moi j'ai eu une enfance très heureuse, très douce, avec des parents aimants. La misère, je l'ai même pas côtoyée, donc non, c'est pas autobiographique, mais si j'étais. Cette fille, je serais Jebara. Si je venais de la misère, je crois que j'aurais son parcours parce que quand on n'a rien à perdre, on est ce qu'elle est, à savoir violente, radicale et quand même pleine de. Elle a quelque chose pour moi, c'est un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a?
Non, mais allez-y, d'accord. Je vous en prie. Je m'apprête simplement à lancer un disque.
Excusez-moi.
Mais je vous en prie, prenez votre temps.
Oui, s'il vous plaît, parce que moi, je suis tellement stressée qu'on me dit d'abréger.
Non.
En fait, ce qu'il y a, c'est que pour moi, Jebara, c'est Mary Poppins. Elle révèle la part d'humanité dans le pire salaud.
Très jolie chute.
Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est l'ennui, parce que quand je suis tout seul, je peux vite partir en vrille. Je fous rien toute la journée. Je bascule dans la déprime. Et je sais même pas pourquoi. Je fais n'importe quoi. Faudrait voir un psy. Laisse-moi tout t'expliquer. Le problème c'est l'alcool. Ça commence par un verre. Et mes principes s'envolent. Laisse-moi tout t'expliquer. Le problème c'est les autres. Quand j'essaye de rentrer, ils me poussent à la faute. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai.
S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir. S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir.
Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est le stress. Quand les problèmes arrivent, je bloque et je délaisse le reste. J'arrive plus à penser. Donc il faut que je décompresse. Mais je vais beaucoup trop loin. Je contrôle plus rien, y'a plus de gentillesse. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est la peur. Quand je m'enfonce dans la nuit, cherche la lumière ailleurs. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est l'ego. Il me pousse à séduire, à posséder les choses. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai.
S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir. S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir.
Dis-moi, dis-moi, dis-moi.
Une chanson en forme de confession. Ça vous a plu, Safia Azzedine? J'ai vu que vous dansiez. Elle dansait dans le studio.
Non, donc non, je remuais.
Vous vous trémoussiez sur le siège, mais c'est déjà beaucoup. Moi, je trouve c'est merci. En tout cas, c'était Aurel San, Dis-moi.
Estivalitude sur France Inter.
Alors Jean Humbert, vous dans votre cas, votre actualité c'est cyclone sur la Jamaïque ou la marabunta gronde, parce qu'il y a tellement de choses que j'ai été obligé de faire. Alors, d'abord, vous avez depuis hier 38 ans, ouais. Donc joyeux anniversaire.
Merci.
C'est gentil de venir nous voir au lendemain de ce jour.
Hein. Ouais, ouais. Bah oui.
Et vous dirigez alors au moins, parce que je les ai peut-être pas tous trouvés, au moins 3 restaurants à Paris, Mamie, les Bols de Jean Boétie et les Bols de Jean Choiseul, un restaurant à Miami avec Pharrell Williams, entre autres, et vous venez nous voir pour un festival de rock qui s'appelle donc Lollapalooza. Alors, c'est quoi ce festival?
C'est pas qu'un festival de rock, par exemple, Aurel San, qu'on vient d'écouter, il y est, il joue demain soir.
Ouais, ouais.
C'est un festival de hip-hop, de rock, de un peu toutes les musiques. Ça vient de Chicago, c'est un des plus gros festivals à l'époque indépendant du monde. Maintenant, c'est via Live Nation que c'est géré et très bien géré. Et on a eu cette idée il y a 3 ans de bien manger dans un festival.
Ah bah ça c'est une très bonne idée. Voilà. Donc ça se passe les 20 et 21, donc ce week-end à l'Hippodrome de Longchamp à Paris. Vous avez raison, il y aura Aurel San, il y aura Ben Harper, Metric, les Strokes, Camélia Jordana, IAM, enfin bref, un monde absolument fou. Et vous, donc, Jean Humbert, vous participez à une initiative qui s'appelle Lola Chef.
Oui.
Alors c'est quoi Lola Chef? Alors expliquez.
Non, mais on a créé ça. En fait, c'est simple. Il y a 3 ans, quand ils sont arrivés en France, ils se sont dit bon, le festival, il est américain, il est allé au Brésil, etc. Qu'est-ce qu'on peut amener comme nouveauté avec la France, hein, avec notre culture? Et Live Nation, ils ont pensé à la gastronomie. Donc vu que je les connais bien, je travaillais que sur pas mal d'artistes, on s'est dit on va créer quelque chose. Et est arrivé Lola Chef. Essayer d'être au milieu d'un festival. D'habitude, qu'est-ce qu'on fait dans un festival? On va prendre un cornet de frites. Enfin, je caricature un peu,
mais on va se dire
un soda, etc.
Un hot dog.
Voilà. Et nous, nous, on a décidé de prendre le contre-pied de ça, de rester évidemment dans la même gamme de prix. Il ne s'agit pas de faire un restaurant gastronomique. On reste dans quelque chose, je sais pas, entre 8 et 15 euros, on va dire. Et on est 7 chefs. On est en plein milieu du festival et on a chacun notre stand et on fait des produits. Alors évidemment, cette année, on est encore plus engagé. On a banni le plastique. On fait que des produits évidemment de saison, sourcés chez des bons producteurs, etc. Et chacun, on est là et on cuisine.
Voilà. Alors, je me suis toujours demandé pourquoi dans les manifestations on ne mange que des merguez. C'est un vrai débat.
Et
alors,
mais c'est très bon, une merguez. Ben,
vous devriez intervenir dans les manifs, me semble-t-il, Jean Humbert. En tout cas, vous allez donc offrir deux bols. Vous voyez, je me suis bien renseigné. Ouais, ouais. Il y a le bol du moment et le bol de Raph. Alors, en gros, parce que je vous demande pas tous les détails, mais c'est quoi, il y a quoi dans vos bols?
Un bol, c'est une base de pain avec mon partenaire de boulanger, Eric Kaiser, où, à l'intérieur, en fait, c'est un pain, comme au Moyen-Âge, j'ai envie de dire, où il y avait une grande tartine et on mangeait, on n'avait pas d'assiette. Là, on mange le contenant qui est le pain. Et à l'intérieur, on le garnit. Bah, l'été, ce sont beaucoup des salades, etc. Par exemple, à Lola, on fait un bol avec des tomates, du chèvre, un peu de rhubarbe, une vinaigrette, tout ça.
Ça y est, la vinaigrette.
Ouais, bah, évidemment.
Ça commence.
Bah, c'est l'heure. Dans pas longtemps. Là, mais la vinaigrette, elle va dans le pain, etc. Et voilà. Donc, après, il y a plein d'autres personnes. Nous, on est tous trop contents de faire ça. Cette année, on a la chance d'avoir le champion du monde de pâtisserie qui est là, quand même, pour faire quelques desserts. Enfin, mais il fait
c'est
les
qui,
choses.
C'est qui le champion
Cédric
du monde?
Cédric Grolet, il s'appelle.
Ah, bah oui, avec qui vous travaillez souvent.
Avec qui je travaille, qui fait mes desserts chez mamie.
Très brillant.
Voilà, oui.
Bah oui, absolument. C'est, quand vous voyez Safia Azzedine, si elle entrait un jour dans votre restaurant et que vous étiez là, quel plat vous lui serviriez?
Couscous merguez, non.
Non, mais
à part le couscous merguez, mais ça c'est.
Non, mais j'adore demander aux gens leur plat. J'adore demander aux gens leur plat préféré, parce qu'en fait, c'est tout de suite, c'est un souvenir d'enfance. Quand vous avez dit tout à l'heure, moi, la cuisine que j'aime, ça va être le premier plat que vous avez dit, c'est le couscous de mon papa. C'est un peu comme ça que j'ai fait mamie, c'est-à-dire mes souvenirs d'enfance. Je trouve les madeleines de Proust, les odeurs, tout ça. Ce sont les meilleurs plats. Je trouve qu'il n'y aura pas d'équivalence. On aura beau créer le meilleur plat du monde, les souvenirs d'enfance sont plus forts. Donc peut-être que je me risquerais à tenter de réinterpréter son plat préféré, peut-être. Le couscous de son papa, voilà.
Ou ça, le hachis parmentier de maman.
Ouais, hachis parmentier, voilà. Ça peut être délicieux, un hachis parmentier.
Et ça, c'est le concept de Mamie, ce restaurant que vous avez ouvert, où vous réinventez des plats traditionnels. C'est un peu une tendance aujourd'hui, non? Cette espèce de réinvention de la cuisine
mais
populaire.
Mais j'ai pas envie de réinventer, c'est le seul mot qui me va pas.
Ah, vous réinventez pas?
Non, je fais justement en brutal, je réinvente rien.
Moi, vous êtes brutaliste?
Je sais pas, mais en tous les peut-être, en cuisine, oui. Mais par exemple... Safia parlait d'hachis parmentier. Moi, par exemple, j'ai pas du tout envie de manger une émulsion de pommes de terre avec un carpaccio de bœuf et je sais pas quoi. J'ai envie de manger une vraie purée, mais incroyable, avec des pommes de terre de noirmoutier de dingue. J'ai envie de manger un bœuf magnifique, super bien sourcé à Salers, en Aubrac ou je sais pas où. Et voilà, j'ai envie de faire une super sauce, mettre du romarin et j'ai envie de raconter si je mange une blanquette.
Mais par exemple, on parle beaucoup de votre blanquette.
Bah, la blanquette de veau, justement, c'est la vraie de ma grand-mère. C'est-à-dire, ma grand-mère, elle aimait mettre des carottes rôties avec. Ouais. Elle aimait pas forcément mettre les champignons. Donc, j'aime bien. En fait, c'est ça, c'est très instinctif, la cuisine. C'est très sensible. Déjà, je le mets quasiment au même niveau que l'amour pour moi. Donc pour moi, un souvenir d'enfance, il n'a pas envie d'être réinterprété d'une manière ou d'une autre. Il a envie d'être lui-même.
Dans les confidences à Allah, il y a un yaourt. Alors c'est vrai qu'elle donne de son corps, votre personnage, pour se faire offrir ce yaourt. Mais je ne connaissais pas cette marque, mais ça a l'air absolument sublime, Safia.
Oui, alors c'est rose, c'est fluo. Il y a une fille sur l'opercule... avec des cheveux lisses, enfin tout ça, ça fait rêver.
Et on peut l'acheter
cette peau petite, mais bien
France.
Sûr, et j'en bois régulièrement.
Ah
non,
bon,
j'en ai trouvé en Belgique, figurez-vous.
Ah, il faut aller en Belgique.
Bah oui, voilà.
Bah écoutez, on va donner mais notre personne, on va aller en Belgique.
Après, je
pour
pense
ça,
pas que ce soit de sûr. Très bonne qualité, donc je vous encourage pas non plus. Mais une fois de temps en temps, c'est quand même très bon.
Alors, parmi les plats que propose Jean Humbert, il y a des desserts hallucinants. Donc ça, je pense qu'ils viennent de Cédric Grolet. Il y a par exemple, écoutez bien, une île flottante dans laquelle la crème anglaise est cachée dans un œuf en chocolat blanc que l'on doit casser sur le blanc en neige.
C'est le seul plat que j'ai réinterprété.
C'est pas mal.
Donc c'est le mauvais exemple. Enfin, c'est un très bon exemple.
Ah oui, mais...
Parce qu'en fait, tous les jours, on cuit les œufs comme des œufs à la neige et on fait à côté cet œuf que Cédric Grolet nous amène. Et en effet, c'était un petit twist. Je trouvais ça marrant, l'œuf à la neige. Voilà, je voulais amener l'œuf à table et on le casse et à l'intérieur, il y a la crème anglaise. C'était le petit twist. Ma mamie, elle adore. Elle a adoré ce dessert.
Par contre, là où je suis triste pour vous, c'est que vous avez déclaré « Je n'ai jamais mangé un burger de ma vie ». Vous savez que vous êtes passé à côté d'un grand plaisir sensuel.
Non, mais en vrai, j'en ai jamais mangé. Ça a été un peu coupé, cette phrase. J'en ai jamais mangé dans un fast-food. J'en ai déjà mangé, par exemple, j'en fais chez moi. Mais si je le fais chez moi, je vais même faire le pain moi-même.
Ah ouais.
Je vais faire la sauce tomate très connue dont je tairai le nom, moi-même aussi. Je vais tout faire, le bœuf, je vais le hacher moi-même, je vais acheter un très bon cheddar, j'ai tout ça, enfin voilà. Moi, j'aime bien un burger, j'en fais peut-être deux fois par an, mais c'est-à-dire, j'ai juste du mal avec le process du fast-food où tout est opaque. J'ai du mal avec l'opacité de la cuisine. J'ai besoin de savoir d'où viennent les choses, comment, pourquoi, qui a produit. J'ai besoin d'avoir ce contact humain. Il a été brisé dans la chaîne alimentaire. Moi, j'ai besoin d'avoir ce contact humain et je respecte tout. Très bien ceux qui n'en ont pas besoin.
I tend to change my head too much. It has become my ruination. My friend, she keeps on warning much for financial decapitation. On top of that, it's true, I see. People never recognize me. On top of that, she's right, I see. Ain't got no style. I'm nobody. I'm nobody. I'm nobody.
Originaire de Gand en Belgique, Charlotte Adigéry est aussi descendante de la tribu Yoruba au Nigeria. C'était Highlights. Vous le saviez, Jean Humbert ?
Pas du tout. Là, j'y étais pas, pardon.
Eh bien, vous découvrez des choses, vous voyez.
Estivalitude, Christophe Bourseiller sur France Inter.
Safia Azedine, vous ne vous contentez pas d'écrire, vous avez aussi réalisé deux films tirés de vos livres, je crois. Pourquoi ? C'est votre objectif d'aller vers la réalisation ?
C'est mon objectif est de
quel est votre objectif ?
De continuer à écrire et de continuer à en vivre.
Mais,
voilà.
Mais pour dire quoi ?
Ben pour dire, vous savez, moi j'écris pour ne pas avoir à parler. Parce que j'aime pas trop parler. Là, je suis ravie d'être ici, mais c'est vrai.
Merci.
Non, vraiment, je vous le dis, c'est vrai, on fait pas tout le temps les émissions qu'on aime. Donc, je suis ravie d'être ici, mais idéalement, si je pouvais me passer de parler, je le ferais. Donc j'écris pour ne pas avoir à parler. Et puis parce que il y a une tradition orale chez les Arabes qui est très importante. Et mon père, sans être un conteur sur la place publique, était un conteur dans la famille. Voilà, mon père ne s'est pas abrégé, il nous a raconté plein d'histoires, vu qu'en plus on n'avait pas le droit de sortir le soir, et ben forcément fallait bien combler tous ces moments. Et donc c'est un conteur, et il m'a un petit peu passé le relais, et j'adore raconter des histoires, et maintenant je fais la même chose avec mes enfants. C'est une tradition orale, vous le savez, millénaire.
Absolument. Voilà. Alors écoutons la bande-annonce de votre dernier film, Demi-sœur.
Bonjour.
Bonjour.
Olivia.
Lorraine,
oui, c'est ça.
Votre demi-sœur, vous connaissez donc...
Non.
Ah, vous ne connaissez pas ? Vous allez hériter de ce magnifique appartement.
Je comprends pas, notre père nous refile un appart et vous en voulez pas ? Moi, je veux habiter ici. Nous, ce qu'on veut, c'est on veut vendre, on est d'accord ?
Mais j'ai pas dit ça.
On n'est pas d'accord.
Sinon, elles sont comment, tes sœurs ?
Demi-sœurs.
Il y en a une qui bosse dans la mode.
Je vais essayer de rien dire sur la French manucure de la Feuge et le deuxième de la robe.
Et l'autre qui bosse en zep.
Interro surprise.
La Bourge, elle est stylée. Elle s'habille, tu vois, comme ces nanas qui mettent des chaussettes avec des talons. En vrai, c'est moche. Et comme elle bosse dans la mode, bah c'est beau.
Il y a un problème avec l'appart. Je croyais qu'on avait rien à se dire. Qu'on venait pas du même monde.
On vient toujours pas du même monde, mais ça n'empêche pas qu'on peut se battre ensemble.
Votre univers, c'est la comédie, Safia. Mmh. Hein, c'est ça que vous aimez, vous.
Mais peut-être ça se voit pas, mais j'adore faire rire.
Eh ben, écoutez, là, mais faites-nous rire.
Non,
là,
non, mais c'est pas sur commande. Vous vous en doutez.
Ah bah c'est ça, c'est
mais
difficile.
Moi,
comme
vraiment,
pleurer,
quand on me dit j'ai beaucoup ri en voyant votre film ou j'ai beaucoup ri en vous lisant, même sur des sujets assez tristes comme la misère de Jebara, moi, c'est quelque chose qui me touche et je trouve ça très difficile de faire rire. Et je trouve qu'il y a un snobisme en France avec la comédie, avec les gens drôles. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile de faire rire.
Oui, en France, si on veut être crédible, il faut écrire des tragédies.
Oui,
si vous écrivez une comédie,
ouais,
vous avez
mais
un handicap.
On me l'a un petit peu reproché, parce que forcément, avec un livre, je commence avec Confidence à la, puis après je fais deux...
Qui est très drôle.
Mais qui est très drôle,
beaucoup rire en le lisant.
Donc moi, je trouve que c'est très difficile, et j'adore faire rire, et j'espère continuer.
Alors Jean Humbert, vous avez noué une belle histoire d'amour avec la télévision. Il y a quand même eu le succès de Top Chef. Juste une question, comment on fait pour atterrir à Top Chef ?
Moi, j'avais jamais vu l'émission. C'est quelqu'un qui m'a inscrit. J'avais pas forcément envie de le faire et je me suis retrouvé. Voilà. On commence par une épreuve de cuisine. Au début, on est des milliers dans un casting. On est 50 en cuisine. Ensuite, on est 14. On commence à passer à télé. Et voilà, on est dans l'engrenage. Moi, j'étais dans l'engrenage. Je me suis jamais caché qu'à un moment où j'étais dedans, j'avais eu envie de le gagner. Pour un sportif, ça paraît normal.
Je vous comprends.
Oui.
Vous êtes un athlète de haut niveau. C'est la moindre des choses.
Mais voilà, ça peut, voilà. Mais c'est quand même, c'est en 2012, donc c'était un petit moment, mais ouais.
Alors, il y a quelqu'un que vous aimez beaucoup, et je dois dire que je partage votre intérêt pour ce personnage. Il demande de qui je vais parler.
Ouais, bah oui.
C'est le critique gastronomique Jean-Luc Petit-Renaud.
Bah oui, c'est le premier qui a parlé de moi.
Ouais.
Moi, j'avais 22 ans quand j'ai ouvert mon restaurant, donc quand Jean-Luc, il a franchi la porte, et qu'il était sur une radio, qu'il a chanté une Marseillaise en direct en disant, voilà, il y a un jeune de 22 ans qui a les couilles d'ouvrir un restaurant en France. Oui, il m'a toujours touché. Moi, je suis de cette génération. On est né avec Jean-Luc qui se promenait dans les campagnes et qui allait voir les chefs et tout ça. Il a fait beaucoup de bien à notre métier et je l'embrasse. Voilà.
Eh ben, on l'embrasse tous les deux et on va l'écouter parce que c'est un très joli document qui date de 1997.
Alors donc, avant de l'ouvrir cette boîte de sardines, eh bien, il faut la voir sur son étagère et pendant 6 mois, vous la regardez, Gaël, et vous la retournez pile face, l'huile redescend à l'intérieur, les petits piments, le citron, tout ça parfait. Fume cette chair de sardine et
tous
au bout
les 15
de 6 mois,
c'est ça,
tous
disiez.
Les 15 jours à peu près, et au bout de 6 mois, sur le bord de la route avec votre fiancé, vous ouvrez la boîte, une petite serviette à carreaux rouge et blanc juste à vos pieds, un bon verre de muscadet, et pendant que les voitures passent anonymes, vous mangez votre sardine.
Safia, ne me dites pas que ça ne vous fait pas saliver d'entendre ça.
Mais si, mais j'ai pas dit le contraire.
Cet éloge de la sardine.
Non, mais j'adore ça et j'adore bien manger. Le seul problème, c'est qu'en fait, je suis très découragée parce que ce que je fais n'est pas bon.
C'est vrai ?
Oui, c'est jamais bon.
Ah, pourtant, c'est très simple.
Mais les autres aiment ça, il paraît.
Pardon ?
Il paraît que les autres aiment votre
cuisine. Mon chéri n'aime pas ça.
Non, il n'aime pas non plus.
Non,
il sait que c'est mauvais.
Mais c'est voilà, enfin, on peut pas être bon partout. Et là, je sais que je ne suis pas. Et puis, c'est pas bon. Je m'en rends compte.
Écoutez, on a ce point commun. Moi, j'adore manger, mais je fais très mal la cuisine. Vous voyez, ça peut arriver, bien sûr. Alors, il y a aussi, Jean Humbert, dans votre actualité, quelque chose d'important, c'est une série d'émissions sur France 5, série de documentaires, qui s'appelle 4 saisons. C'est quoi l'idée de 4 saisons ?
Bah dans, historiquement, dans les émissions, on allait rencontrer les producteurs en France. On allait souvent aller en Bretagne, en Corse, dans le Nord. Et là, moi, j'avais envie. En fait, je suis plutôt engagé, on va dire. En tout cas, j'ai écrit un livre sur le sujet, sur tout ce qui est éco-responsable au niveau de la cuisine. Et j'avais envie d'aller à la rencontre de tous les gens qui font des choses bien en France, concrètement, et le mettre en fonction de la saison. C'est-à-dire que là, on a passé l'été. Vers mi-septembre, on va passer l'automne pour dire aux gens. Voilà, ça va se passer en France, à côté de chez vous. Allez-y, faites-le, mangez, faites travailler les gens qui travaillent à côté de chez vous, quoi.
Alors, on écoute un extrait de votre premier épisode qui a été diffusé le 23 juin.
Ça, c'est dingue parce que rien que là, à l'odeur, c'est assez incroyable.
Ouais, ça sent la pêche.
Ouais, limite confiture de pêche, quoi.
Donc, c'est une variété qu'on a fini de ramasser. Il reste quelques fruits. Et alors, celui-là, je pense que si tu crois que c'est vraiment du sucre pur.
Ouais. Ah, c'est dingue. Mais justement, ce fruit que tu m'as donné, donc tu viens de le cueillir à maturité.
Oui.
Comment c'est possible finalement qu'il se retrouve hyper rapidement sur un étal, sur un marché, tout ça? Comment ça se passe?
On peut avoir qu'un seul intermédiaire, c'est-à-dire moi je ne fais pas forcément de vente aux particuliers. Mais par contre, j'ai des grossistes qui eux ont leur propre magasin. Donc en fait, ils remettent de suite sur les étals, ça prend un jour quoi. Donc,
C'est dingue. J'aimerais que tous les enfants de France puissent croquer dans une pêche ici, là, comme ça pour de vrai quoi. Et pas un truc qui a été cueilli 10 jours avant, passé par 5 frigos, tout ça. Ouais. Ah, j'ai envie d'en envoyer à tout le monde, mais t'en as pas assez, mais c'est pas grave. Ouais.
Vincent, on peut commencer.
Allez.
Ah, c'est sympathique, hein, ça fait envie. Mais... Alors, Jean Humbert, je vous ai demandé si vous aviez une question pour Safia Azzedine. Vous avez longuement mûri la question. Et alors, quelle est la question?
Bah, je voulais lui demander son dessert préféré. Comme ça, je vais peut-être lui préparer. Voilà.
Ah oui.
Ça, alors.
C'est bon signe, ça.
Oui. En plus, je suis plus sucrée que salée. Écoutez. Moi, il y a un repas que je ne saute absolument jamais. C'est le goûter. Alors, si je peux transformer votre question, parce qu'en fait, je préférerais un bon goûter qu'un dessert. Parce que je sais
pas. Ça se perd en plus. C'est
pas rentrer dans l'oreille d'une sourde. Je viendrai réclamer mon goûter.
Du pain avec du chocolat?
Non, je suis folle de viennoiserie et de donuts et de beignets. Mais des bons.
Bah, voilà. Jean Humbert, vous
un
avez
beignet,
compris.
À l'automne, un beignet à la pomme ou aux poires.
Ouais. Voilà. Ah, oui. Alors là, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir.
Vous en faites deux, s'il vous plaît. Voilà. Safia, vous avez aussi une question pour Jean Humbert.
Oui.
Oui. Vous voulez que je vous la rappelle ou pas?
Non, non, je l'ai, elle était un peu longue parce que je ne sais pas faire court.
Mais moi, je l'ai résumée.
Ouais. En gros, ma question, c'était, on nous fait peur et on nous effraie, et à juste titre, sur la malbouffe, les lobbies alimentaires, l'huile de palme. Et je vous parle vraiment comme une novice qui lit ça et qui est un peu effrayée. Et, alors, on nous fait peur, mais on ne nous donne aucune solution. Et en fait, j'aimerais savoir si vous avez... Et je comprends que le sujet est bien plus grand que vous, que moi, que nous. Qu'est-ce qu'on fait pour commencer à bien manger quand on est pauvre?
Parce que,
voilà, quand on a, c'est possible. Mais quand on est pauvre, c'est quoi la première chose à faire?
On n'a pas les moyens de se payer les magasins bio qui sont assez chers.
Le bio, certes, c'est bien, mais c'est pas forcément... Voilà. Le bio va devenir obsolète bientôt, c'est-à-dire que c'est toute meilleure. Mais déjà, la première chose que pour répondre à votre question, la première chose, ce serait de se mettre en cuisine, c'est-à-dire d'acheter des produits frais. Parce que la plupart des éléments nocifs qu'il peut y avoir sont souvent dans des produits transformés. Si on achète, vous dites, l'huile de palme, cette fameuse... si, par exemple, on s'achète un très bon chocolat éco-responsable, blablabla, ou même quand on s'achète, par exemple, en ce moment, on va dire, on est dans la saison des tomates, faire soi-même sa propre sauce tomate pour aller avec des pâtes, par exemple. Ça va quand même coûter moins cher que de s'acheter une sauce tomate. Donc déjà, se mettre en cuisine. Après, évidemment, si on vit à la campagne, on peut avoir un lien de proximité avec certaines personnes. Mais d'un côté, moi, je bannis personne. Je travaille même avec la grande distribution. Et je pense qu'on a besoin d'eux. À partir du moment où 85% des Français font leurs courses dans la grande distribution, on a aussi besoin qu'eux aussi prennent le bateau en marche, etc. et changent les choses. Mais je suis d'accord que c'est pas si simple. Mais par contre, au niveau du prix, je dirais que on peut arriver à s'acheter des produits simples. Par exemple, je vais donner un exemple. Je dis toujours, achetez-vous un chou-fleur. Un chou-fleur, ça vaut, je sais pas, 1 euro même pas. Un chou-fleur, on peut se faire une énorme soupe pour 8, pour 10, tout ça. Et alors que ça va même pas être le prix d'un dixième d'un fast-food, tout ça. Enfin, je dis, il y a plein de choses comme ça, des produits frais, quoi.
D'accord.
Spend one day alone, but she couldn't be satisfied. When you have
everything, you have everything to lose. She made herself a bed of nails, and she's planning on putting it to use. But she had diamonds on inside. Diamonds. A candle throws its light into the darkness, and a nasty world so shines a good deed. Make sure the fortune that you see is the fortune that you need. So tell me why the first ask is the last to give every time. What you say and do not mean follows you close behind. She had diamonds on inside.
Sera ce week-end, merci de me l'avoir rappelé Jean Humbert, au festival Lollapalooza à Paris. Ben Harper en 2003 chantait Diamonds on the Inside, une programmation gospel rock de Muriel Pérez.
Vous avez dit,
vous avez dit,
mais vous m'avez rien dit.
Parce que c'est faux.
C'est vrai. Bah évidemment que c'est vrai.
Il n'y a pas mille manières d'être féministe aujourd'hui. Il me semble que vraiment être une féministe économique, ça englobe tous les féminismes et tout le reste suit. Quand vous gagnez la même chose qu'un homme et que vous pouvez le regarder dans les yeux, en général, il vous respecte après.
Et pan. Ça, c'est vous, Safia Azzedine.
Non, enfin, moi, mon père était le premier féministe que j'ai rencontré. Et il m'a appris une chose. Enfin, pour lui, c'était très important que ses filles, en tout cas, soient indépendantes économiquement. Parce que quand on est indépendante économiquement, on aime mieux. Je reste pour les bonnes raisons.
Avec une forte individualité, il vous a transmis l'idée de ne pas entrer dans le troupeau, l'idée d'être différente. Vous avez dit « je suis qui je suis, si ça déplaît à quelqu'un, ce n'est pas mon problème ». Alors qu'est-ce qui peut déplaire aux autres dans votre personnalité, Safia Azzedine ?
Je ne sais pas quand j'ai dit ça, je ne devais pas être très inspirée. Je suis.
Ben, je ne peux pas vous dire.
Je suis qui je suis, oui, enfin on l'est tous un peu.
Ben, moi, oui.
Non, en fait, j'écris sur mon père, mon prochain livre qui sort en janvier, c'est sur mon papa, et ça s'appelle « Le temps est bavard » pour l'instant, parce que plus jeune, j'avais entendu des méchancetés à mon égard par des méchantes filles, voilà, et bon, quand on est plus jeune, forcément ça vous touche. Et j'étais allée le voir, un peu triste, en disant « voilà, ces filles ont dit ça sur moi et ça me désole et je suis triste ». Et il m'a dit cette phrase, qui est pour moi un héritage merveilleux, il m'a dit « ne t'en préoccupe pas, ne réponds pas, Le temps est bavard, il répond à des questions sans qu'on le questionne. Il répond à tes questions sans que tu le questionnes. Et en fait, ça m'a soulagée. Et donc, je me suis jamais plus préoccupée de l'avis des autres sur moi. Après, j'adore qu'on m'aime. Hein.
Oui, vous avez raison.
Oui, bien sûr. Non, mais j'adore ça et j'en ai besoin. Mais c'était plus important, en fait, l'avis des autres. Parce que le temps, si je me comporte bien, et c'est ce que je fais, parle pour vous.
On vous a demandé, Safia, êtes-vous Charlie? Et vous avez répondu, pas vraiment. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là?
Parce que je voulais dire qu'il n'y avait pas une seule manière de commémorer les morts. Voilà. Donc, j'aimais pas Charlie Hebdo avant. Je suis heureuse d'être dans un pays où Charlie Hebdo existe. Ils ne me font pas rire, ils ne m'intéressent pas plus que ça. Mais je pense qu'il y a plusieurs manières de commémorer la mort de gens innocents.
Mais vous déplorez l'attentat qui a été commis, vous le condamnez.
Vous venez d'entendre ce que je viens de dire. Il y a plusieurs manières de commémorer la mort d'innocents journalistes. Et donc, je ne voulais pas juste être Charlie. Je ne veux pas réduire ma colère, mon indignation à un slogan comme je suis Charlie. Parce que je n'étais pas Charlie Hebdo, tout simplement. Mais la peine est exactement la même que la vôtre.
Jean Humbert, vous ne vous exprimez jamais sur les sujets politiques. Vous n'avez pas d'opinion politique ?
Si, j'en ai plein, mais le problème, c'est... Voilà, mon métier, moi, c'est la cuisine, et j'ai pas envie de... Il y en a des personnalités, c'est vrai, qui sont pas du tout là-dedans et qui ont envie de donner leur avis. Moi, mon avis, il est pour ma famille et mes copains, et voilà.
J'avais envie de vous demander s'il y a une cuisine de gauche ou une cuisine de droite.
Mais il y a des plats historiques. Moi, quand j'étais petit, j'entendais les dîners à l'Élysée de Jacques Chirac avec ses têtes de veau et tout ça. Ça me faisait rêver, moi. Moi, j'adore que nos hommes politiques puissent aimer. Bon, c'est vrai que c'est un peu tendu en ce moment, mais qu'ils puissent au moins aimer la bonne chair et faire honneur à la gastronomie. Quand il y a des grands repas, quand il y a grand pas du G7, tout ça, quand les présidents viennent et qu'il y a des grands repas avec le chef de l'Élysée, qui est d'ailleurs super. Je trouve que c'est important pour l'image de la France.
Alors faites-moi rêver, Jean Humbert, vous avez ouvert un restaurant à Miami avec Pharrell Williams. Comment ça se fait une alliance ça?
Il m'a demandé. On était dans un dîner à New York il y a 2 ans. Il m'a dit bon, j'ouvre un resto à Miami, c'est toi qui vas être le chef. Le lendemain, il y avait un avion qui m'attendait. Je me suis retrouvé là-bas. Et voilà, on a ouvert ça en novembre. C'est un super carton. Je suis heureux. Mais voilà, je reviens 2 secondes à la question de Safia sur même à Miami, par exemple, on en parlait un peu en off pendant la musique. On a réussi à avoir un potager, à être engagé là-bas, même dans d'autres endroits.
Même à Miami, vous êtes écolo.
Mais oui, mais à Paris, même à Blanche, je peux faire un brunch. On fait attention à tout ce qu'on achète en termes de sourcing. Donc oui, c'est important. Oui.
Il paraît que vous ouvrez cet été une cabane écologique en Bretagne.
Oui, ça y est, c'est ouvert.
Qu'est-ce que c'est que cette cabane écologique?
Ça, c'est un projet foufou. Tout le monde se moque de moi, mais en fait, je le trouve incroyable. C'est perché dans les arbres à 7 mètres de hauteur, entièrement sans béton, que des vis qui vont dans le sable. Et il y a tout un potager en permaculture fait par Ferme d'Avenir où, en fait, on est en autosuffisance. Panneaux solaires sur le toit, toute l'isolation en champ, bois brûlé, etc. Et on va récolter les légumes. On les cuisine dans la cabane. Voilà, j'y étais là ce week-end et c'était un grand moment.
Alors, il y a un grand moment aussi dans l'émission. C'est le moment où je demande à mes invités le son qui les résume. Safia Azzedine, le son qui vous résume, je dois dire, ça m'a beaucoup impressionné. C'est un extrait du film Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, de Jean-Yann, en 1972.
Dire merde ou mon cul, c'est simplement grossier. Maintenant, voyons donc tout ce qui est vulgaire. Prendre une voix feutrée et sur un ton larvaire, vendre avec les slogans au bon compte d'auditeur les signes du zodiaque, le courrier du cœur. Connaissant son effet sur les foules passives, faire appel à Jésus pour vanter la lessive. Employer les plus bas et les plus sûrs moyens, faire des émissions sur les vieux, sur la faim, le cancer, enfin jouer sur les bons sentiments afin de mieux fourguer les désodorisants. Tout cela, c'est vulgaire, ça pue, ça intoxique, mais cela fait partie du jeu radiophonique. Vendre la merde, oui, mais sans dire un gros mot. Tout le monde est gentil, tout le monde, il est beau.
C'est génial.
Je trouve, c'est pour ça que...
Il était génial, Jean-Yann.
Oui. Parce qu'en fait, moi, je suis assez grossière. Pas tout le temps, mais je dis des gros mots.
Vos personnages, ils y vont quand même.
Voilà, oui. Et en fait, quand on me dit « Oh, mais c'est, votre livre est vulgaire », je leur dis « Bah, pas du tout ». En fait, ce que j'aime dans l'extrait, c'est que, en fait, on se rend compte que un comportement est vulgaire et la grossièreté, c'est uniquement des mots. Et j'aime bien, c'est le fond et la forme. Et moi, je pense, en tout cas, que tous mes personnages sont toujours très élégants, mais ils disent beaucoup de grossièreté.
Alors Jean Humbert, vous, le son qui vous résume, alors on va laisser les auditeurs deviner, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être, de l'eau qui coule? Non, c'est quoi, Jean-Humbert?
Non, c'est le beurre qui crépite dans une poêle. Ah, oui, c'est un bruit que j'adore, une odeur aussi que j'adore. C'est, voilà, à chaque fois qu'on fait, par exemple, une solmenière ou même des légumes un peu sautés comme ça dans un peu de beurre qui devient noisette. Ah, oui. Mamie l'aurait même fait brûler pour que ce soit encore meilleur.
Oui, mais alors, là, c'est une autre époque. Gare au cholestérol, quand même.
Bah, non, mais le beurre, oh, ça va. Oui.
Mais bien sûr. Il y a beurre ou huile d'olive, il y a deux écoles. Hein.
On peut mettre un peu des deux, comme ça, ça invite de cramer le beurre. Petite astuce. Voilà.
Tu veux que je te raconte un souvenir?
Un souvenir, oh oui.
Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
Alors nous sommes dans Estivalitude, c'est l'été, on est en plein cœur, on va vers un petit moment de canicule paraît-il, mais enfin aujourd'hui ça va encore à peu près, et donc je vous ai demandé à l'un et à l'autre quel était le souvenir de vacances qui vous avait le plus tourneboulé d'une certaine façon. Alors Jean, vous, ça se passait en Bretagne, c'est ça, en bateau? Vous vous souvenez pas?
Si, 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 moi j'adore aller sur une île qui est en face de Saint-Malo, qui s'appelle Cézambre.
Je déconcerte mes invités.
Non, non,
oui,
non mais je, voilà, je suis à fond. C'était mon année hier.
Vous êtes
donc,
au taquet, vous êtes au taquet.
Bah oui,
ah, bah,
oui.
Vous avez fêté hier.
Bah oui, non, bien sûr, bien sûr. Si peu. Et non, c'est, voilà, c'est une île où juste on arrive et il y a un barbecue et il met quelques maquereaux grillés qui ont été pêchés. Et j'adore passer à un endroit qui s'appelle le Cap Fréhel, qui est assez dangereux parce qu'il y a beaucoup de courant, mais j'adore le passer de nuit en bateau. C'est le truc qui me fait le plus rêver dans l'année.
Passer le Cap Fréhel de nuit en bateau et manger une petite sardine. Ouais. La macro. Sardine est un peu le fil conducteur de notre émission. Alors vous, Safia Azzedine, votre souvenir de vacances est extraordinaire.
Ouais.
Franchement, hein, franchement.
Bah oui,
Donc vous avez 20 ans, vous êtes au Maroc. Et là, qu'est-ce qui se passe?
Je suis au Maroc, mais pas n'importe quel Maroc. Je suis à Figuig, dans une petite oasis d'où vient mon papa, dans le Sahara oriental, où il n'y a rien.
Il n'y a rien.
Et ma grand-mère, qui me trouvait un peu précieuse et me faisait toujours faire des tâches un peu dégueulasses. Et donc là, j'étais... c'est le début des portables. Hein, et je suis sur la terrasse en haut, en train de faire sécher des tripes de moutons.
Vous faites sécher des tripes de moutons?
Oui, mais elle faisait exprès. Elle nous trouvait trop bourgeois, etc.
Ça s'accroche comme du linge, des tripes de moutons?
Exactement, ouais, bien sûr.
Avec des pinces à linge?
Exactement, de toutes les couleurs. Donc c'est assez joli. Donc je suis sur une terrasse, je fais ça, et puis mon téléphone sonne. Et j'avais postulé pour un travail d'assistante diamantaire à Genève, parce que j'habitais à côté de Genève. Et là, c'est le boss qui m'appelle pour me dire que j'étais prise et que en septembre, on allait partir. Moi, j'avais pas beaucoup voyagé dans ma vie. Qu'on partait en Égypte, en Inde, acheter des rubis et qu'on terminé par la Californie et qu'on revenait. Et donc, j'avais les mains qui sentaient le mouton.
Pleine de sang.
Bah non, on les avait nettoyées,
ah bon,
et j'étais
même
en train d'accrocher ça, et au téléphone on me disait dans un mois t'as un bon salaire et tu vas faire le tour du monde, et j'ai trouvé
la rencontre du bling bling et de la pauvreté,
ouais,
presque,
non,
hein,
non, c'est pas la
collision,
pauvreté,
la collision des univers,
enfin,
la collision
on est univers. Dans le vrai, dans le dur, dans les tripes,
c'est
quoi.
Bon, les tripes de mouton,
bah écoutez, plutôt, ouais.
Vous les faites comment, Jean-Humbert?
Je vais faire chou blanc là-dessus parce que là, je suis
désolée. Comment on attend
mamie ne faisait pas de tripes de mouton.
Alors que mamie, moi, en faisait. Bah et oui. Je me suis dit que si j'arrive à garder ces deux choses, à savoir faire le tour du monde pour acheter des diamants et les tripes de mouton, qui sont quand même ma culture, même si j'en mange plus, eh ben, je serai riche toute ma vie.
Eh ben, moi, mon rêve aujourd'hui, c'est d'une part de faire le tour du monde et aussi de manger des tripes de mouton. Merci infiniment Safia Azzedine et Jean Humbert. Vous avez tous les deux fait preuve de beaucoup, beaucoup d'estivalitude ce matin. Alors Safia Azzedine, votre livre « Confidence à Allah » est donc ressorti chez Stock. Voilà. Jean Humbert, outre vos trois restaurants... Alors c'est tout de suite complexe, hein, mais je vous suis. Jean Humbert, donc outre vos trois restaurants à Paris, votre restaurant à Miami et votre cabane écologique, vous participez ce week-end donc au festival Lollapalooza, mais vous ne chanterez pas, et votre série 4 saisons se poursuit cet automne sur France 5, c'est bon?
Merci.
Alors, mais je vous en prie, vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Alors la réalisation d'Estivalitude est assurée par Juliette Medevielle, l'émission a été préparée par Saad Merzak, Pierre Goulencourt et Astrid Landon, et à la technique aujourd'hui, il y avait Mathieu Mathias à Léon. Notre boutique éphémère réouvre bien sûr dès lundi 9h sur France Inter. Je recevrai un phénomène du piano classique, le libano-mexicano-français Simon Grechy, et un ancien journaliste de France Inter qui ne cesse de parcourir l'Europe, Bernard Guetta. Ah, on me dit que la liaison avec le satellite nord-coréen Kim Jong-un est établie. Laurent Delmas, vous n'avez pas trop le mal de l'espace.
Bonjour Christophe.
Bonjour, ça va, vous allez bien?
Cette fin de semaine, oui, ça va bien quand même. Oui, absolument. Écoutez, je vous propose de nous rejoindre.
J'adore parce que vous ignorez mes tentatives désespérées de gag avec une élégance.
C'était très drôle et nous allons maintenant partir ensemble dans les années 60 où nous retrouverons Pierre Barou, Ray Charles, Micheline Dax, Corinne Marchand et Charles Aznavour, entre autres.
Ça ne me surprend pas de vous, vous êtes tellement talentueux. Il est 10h sur France Inter.